des catégories d'espace, là aussi, enchevêtrées et disloquées, qui rendent beaucoup mieux compte, au fond, de cette espèce de désordre créateur que nous voyons surgir, surtout dans les mégapoles du tiers-monde, d'ailleurs, plus encore que dans les cœurs des métropoles occidentales. Donc ça, c'est la deuxième partie de mon exposé, puisque vous avez le plan sous les yeux, c'est-à-dire que je me servirai du travail de Lise en critique historique que Benjamin fait sur ces catégories éternelles de temps et d'espace héritées de la philosophie classique, pour montrer qu'au contraire, il faut que nous remanions ces concepts de temporalité et d'espace pour, en quelque sorte, prendre des distances vis-à-vis de la lecture que fait Walter Benjamin de la morphologie de Paris au XIXe siècle. Et dans un troisième temps, je dirais que la clé de lecture, où au fond Benjamin reprend la théorie classique du fétichisme de Marx, il faut la reprendre au XXIe siècle en montrant où au fond la production matérielle de marchandises ordinaires était massivement dominante, à une économie où, en termes quantitatifs, prendre comment pourrait fonctionner un fétichisme sans fétiche, c'est-à-dire un fétichisme dématérialisé qui ne passe pas par la médiation de l'échange de marchandises au sens ordinaire du mot. Et donc, dans un troisième temps, j'en viens à essayer quelques hypothèses de lecture pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les métropoles contemporaines, en avançant cette idée que nous avons désormais une dématérialisation de la production politique de l'espace. Et j'ai intitulé mon exposé « Planification urbaine » parce que la propriété foncière étant, comme dit Polanyi, une pseudo-marchandise, elle ne peut pas être obligateur, donc elle fait l'objet d'une production politique, c'est pour ça qu'elle est pseudo, elle n'est pas marchandise, c'est une pseudo-marchandise, et donc il faut comprendre que cette production, c'est ce qu'on appelle classiquement dans la technocratie la planification urbaine, aux États-Unis on utilise aussi la même expression, et donc il faut comprendre, c'est là-dessus que je terminerai mon exposé, quelles sont les métamorphoses que, au fond, la planification qui est obligée de sécréter, si j'ose dire, spontanément le mode de production capitaliste, aboutit à un certain nombre de changements qualitatifs de cette planification urbaine. Alors, pour résumer mon propos, je rappellerai d'abord la résurrection des banquiers. Là, je renverrai à un économiste à la mode, Thomas Piketty, qui a montré, qui a étudié l'évolution des revenus des gens très très riches, c'est-à-dire les 30 000 foyers fiscaux en France les plus riches, ça représente un 10 000e de la population. Donc vous voyez que quand les services statistiques officiels prennent ce qu'on appelle les intervalles interdéciles, c'est-à-dire un dixième les plus riches contre les un dixième les plus pauvres, en réalité on a une lunette extrêmement grossière, parce que quand on a seulement le 1 dix millième, non pas le 1 dixième de la population les plus riches, alors on multiplie dans un rapport de 1 à 100 sans qu'on le sache très bien. Donc c'est ce phénomène réel qui me fait dire, ça sera la première fois, la dernière fois que j'en parlerai ce soir, qu'il y a une résurrection massive de la rente. Alors, même donc de résurrection de la rente, le propos, c'est que dans un chapitre qui termine le Capital, Marx a une magnifique formule où Monsieur le Capital fait un ballet fantastique avec Madame la Terre dans cette espèce d'ensorcellement, une espèce de... Alors dans la tradition allemande, c'est évidemment la nuit de Walpurgis qui fait référence à la mythique. Et donc ce ballet fantastique montre comment, dans l'ensorcellement généralisé de l'économie que produit le marchandisme généralisé, eh bien, c'est cette espèce de ballet fantastique entre Monsieur le Capital et Madame la Terre qui explique en quelque sorte que nous soyons possédés par toute cette sorcellerie. Alors, pour résumer mon propos, c'est que j'aurais tendance à dire que le processus de dématérialisation de l'économie aboutit à ce que ce ballet fantastique se fasse avec une Madame la Terre qui devienne invisible. Vous avez le résumé en quelques mots de mon exposé. Alors maintenant, je passe à... Alors je ferai peut-être un petit raccord, puisque Tony a rappelé que j'étais responsable de la Commission économique des Verts, pour dire qu'à notre époque, Madame la Terre a une signification double, c'est-à-dire c'est à la fois la Terre de symbole d'Alter Benjamin de la propriété foncière, mais c'est aussi la planète Terre en tant qu'elle risque d'être menacée rapidement de disparition. Donc vous voyez qu'il y a un enjeu, y compris par rapport à la politique la plus actuelle. Alors dans un premier temps, je rappellerai la théorie classique de la rente. Qu'est-ce que c'est que le rapport social de rente? Alors dans la synchronie, le rapport social de rente, c'est donc la propriété privée des terres qui sont considérées, les combinées, donc c'est avec beaucoup de guillemets, naturelles de reproduction de la force de travail. C'est-à-dire qu'au moment historiquement de l'enclosure, c'est-à-dire de la confiscation privée nationale, au fond, comme dirait Yann Mouillet-Boutan, qui n'est peut-être pas là ce soir, les travailleurs ont été libres de la terre et en étant privés, en quelque sorte, des moyens d'accès à un certain nombre de ressources naturelles, donc toujours entre guillemets, et gratuites. Alors, ça c'est au niveau historique, donc il y a eu ce phénomène de libération. Cette libération historique se reproduit dans la synchronie par le fait qu'il y a un effet de cliquet, c'est-à-dire que si un ouvrier, comme il pouvait en exister dans la région de Nantes ou de Saint-Nazaire, voulait revenir vivre à la terre, il ne pourrait pas, parce que justement vous avez un prix des terres qui ne pourrait pas acquérir les moyens de son autosubsistance. Ce phénomène, cette structure extrêmement rigoureuse qui fait que les trois rapports sociaux de distribution fondamentaux sont complémentaires les uns des autres et donc sont solidaires dans la reproduction synchronique du capital, c'est ce qui permet justement d'expliquer la fameuse formule trinitaire et donc l'allégorie et Benjamin en particulier. Alors la question qui se pose, une fois qu'on a dit cela pour le rapport social de rente foncière, c'est que là je vais employer exprès le vocabulaire de Polanyi, parce qu'à mon avis il clarifie les choses. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, quand on reprend la théorie de Polanyi, que vous avez trois pseudo-marchandises, la terre, le travail libre et la monnaie, qui sont fondamentales, c'est-à-dire sans lesquelles le mode de production capitaliste ne peut pas exister, et que néanmoins, le mode de production capitaliste ne peut pas produire par lui-même, c'est-à-dire que le marché autorégulateur est incapable de produire directement du travail libre, de la propriété foncière en privé, et de la monnaie. Et donc, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il faut dire que c'est une pseudo-marchandise? Parce que, classique de la valeur, ce sont des objets qui ne sont pas produits avec du travail. Donc, dans la théorie classique de la valeur, ils n'ont pas de valeur. Ni la terre, ni le travail, mais par nature de la valeur, tout simplement, ni la monnaie en elle-même, n'ont pas de valeur. Néanmoins, elles ont des prix, puisqu'elles s'échangent sur des marchés. Pour expliquer cet objet un peu mystérieux, qui sont des pseudo-marchandises, et qui ont néanmoins un prix. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Et comment on produit, puisque cette production ne fait pas l'objet d'un travail, qu'est-ce que ça veut dire produire de la propre, produire de la monnaie, produire du travail libre? Alors c'est là où c'est un jeu de mots, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas du sens de l'économie classique, il s'agit d'utiliser le travail au sens métaphorique. Donc nous, un siècle et demi après Marx, grâce à la psychanalyse en particulier, on peut dire que le travail du rêve n'est pas un travail au sens économique, mais néanmoins quelque chose. Alors, la production en question, c'est, à mon avis, là aussi le vocabulaire, à mon avis, de la psychanalyse clarifie les choses, c'est une production de nature symbolique. Et dans le cas de la monnaie, c'est évident. Et donc, la thèse qu'avance Polanyi, c'est qu'au fond, la forme, le modèle, en quelque sorte, de production de ces pseudo-marchandises se ramènent tous au modèle de production de la monnaie. Donc il faut comprendre, l'économiste qui continue à parler, comment on produit la monnaie. Alors la monnaie, il y a deux processus culés l'un à l'autre. Il y a d'abord un premier processus dont la plupart des gens ordinaires, c'est le processus de production de l'étalon monétaire. Et puis il y a deuxièmement le processus de création monétaire proprement dit. De création monétaire, bon, ça a été analysé par un certain nombre de gens, mettons Jean-Joseph Goum, etc. C'est un processus de production simple. Comme pour employer le langage de Marx, c'est-à-dire c'est un processus d'élection, c'est-à-dire on choisit une marchandise parmi toutes les marchandises possibles, et d'exclusion. Donc on la sacrifie, c'est-à-dire on la retire de la circulaire pour qu'elle serve de réserve de valeur. Bon, alors ça c'est très classique, ça a été repris ensuite plus récemment, au fond c'est la théorie qui a été à la mode par René Girard, qui a été reprise par un certain nombre d'économistes comme Aziz Détat et Orléans dans La violence de la monnaie. Donc c'est un processus de production éminemment symbolique, donc on n'engage pas du travail au sens de l'énergie humaine quantitative, mais produit une norme régulatrice des phénomènes de création par ailleurs. Alors le deuxième processus, c'est la création de la monnaie, parce que là aussi, contrairement à ce que pense le vain peuple, la monnaie, ce n'est pas les billets de la banque centrale et les pièces de monnaie métallique. L'essentiel de la création monétaire est fait par les banques. Il y a un adage des banquiers qui résume bien le mécanisme de création monétaire. Les crédits font les dépôts. C'est-à-dire que quand une banque commerciale privée fait un crédit à un particulier ou à une entreprise, eh bien, le crédit qui est fait par ce particulier ou par cette entreprise génère un certain nombre de paiements. Donc, en général, quand on fait des crédits, c'est pour acheter des gens qui sont payés avec ce crédit, qui eux-mêmes s'empressent de le mettre sur leur compte de dépôt, ce qui fait que d'autres banques le reçoivent de l'autre côté, de telle sorte que la masse monétaire d'ensemble augmente du crédit initial. Et donc, comme à un moment donné, donc là, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'expansion excessive, donc c'est le rapport entre la banque centrale et les banques privées qui fait qu'il y a en quelque sorte une boucle, un feedback négatif de la banque centrale sur les créations monétaires des banques privées et qui permet de piloter la création monétaire. Et donc c'est cet ensemble de mécanismes, alors peut-être que j'enfonce des portes ouvertes dans une assemblée, donc je ne sais pas. Mais donc c'est peut-être des choses évidentes que je dis là, mais c'est ce processus qui est le processus fondamental de création monétaire. Et vous pouvez transposer ce processus de création de la pseudo-marchandise monnaie pour éclairer, pour expliquer, pour comprendre le mécanisme de production de la pseudo-marchandise terre et de la pseudo-marchandise travail libre. Donc, pour en terminer avec la rente, mais ça devient important.